sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Dans le cadre de nos émissions sur les personnages remarquables du diocèse de Cahors, nous allons évoquer aujourd'hui la personnalité et la personne de Saint Jean Gabriel Perboire. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger autour de ce personnage avec Emmanuel Hernandez, qui est notre technicien préféré.
Merci beaucoup. Enchanté.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Marie-Madeleine.
Alors, en effet, dans chaque église du département, du Lot, se trouve une statue de ce fils de fermier dont la destinée peu commune fut honorée en 1996 lors de sa canonisation par le Saint-Pape Jean-Paul II. Alors, chers auditeurs, je ne vous signale pas une image en particulier, parce que si vous tapez sur Internet Jean-Gabriel Perboire, vous verrez à peu près tout le temps la même image. Hein. Voilà, donc vous la trouverez très facilement sur Internet, quelle qu'elle soit.
Alors, première question, qui était Jean-Gabriel Perboire?
Eh bien, on va commencer par là. Alors, Jean-Gabriel Perboire est né le 6 janvier 1802 à Montgesti, qui est un village à côté de Cahors, à une vingtaine de kilomètres environ, dans la ferme de ses parents, qui s'appelaient Pierre Perboire et Marie Rigal. 15 ans plus tard, en 1817 donc, il accompagne son petit frère, Louis, au séminaire de Montauban. En effet, Louis a été pressenti par son oncle, qui était un prêtre lazariste, comme étant doué et pouvant continuer des études pour devenir prêtre. Alors Jean-Gabriel, le grand frère, va rester auprès de son jeune frère donc pendant quelques mois, afin que ce dernier puisse s'habituer à la vie de communauté du séminaire. C'est au cours de ce séjour à Montauban que Jean-Gabriel va lui-même prendre goût aux études et parfaire son instruction, qui, somme toute, n'était pas allée très loin, les travaux de la ferme étant très prenants. Il faut se souvenir qu'en ce tout début de XIXe siècle, les enfants travaillaient très tôt. Ce que dénoncera d'ailleurs plus tard Victor Hugo, qui, soit dit en passant, est né lui aussi en 1802. Souvenez-vous, ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon percé sous Bonaparte, l'extrait de Feuilles d'automne de 1831. Ceci étant dit, comme Jean-Gabriel montre des aptitudes pour les études et un désir réel pour la vie religieuse, il va s'engager alors une discussion entre ses parents, qui voudraient bien qu'il reprenne la ferme, et son oncle qui le verrait bien embrasser la vie de sacerdoce. Et c'est l'oncle qui a gagné.
Oui.
Suite à une lettre que Jean-Gabriel écrit à son père, dans laquelle il précise qu'il a compris, lui, Jean-Gabriel, que Dieu voulait qu'il soit prêtre. Alors il termine ses études et entre chez les lazaristes, où Louis se trouvait déjà. Il va ensuite prononcer ses vœux le 20 décembre 1820. Il a 18 ans.
Alors éclairez-nous sur les lazaristes, Marie-Madeleine.
Ah, alors, la congrégation, ça s'appelait au départ la congrégation de la mission, qui a été fondée le 17 avril 1625. En 2025, on a fêté les 400 ans. Fondée par Saint Vincent de Paul. Cette mission était dédiée à l'évangélisation des pauvres des campagnes. Et la congrégation prend ensuite le nom de lazariste, car la maison était dans le quartier de Saint-Lazare à Paris, dans l'enclos Saint-Lazare, qui à l'origine était une léproserie, où on accueillait les lépreux. Donc Saint-Vincent de Paul y crée un séminaire, séminaire de la mission. Et en 1633, il fonde à Clichy les Filles de la Charité, sous la responsabilité de Louise de Marillac, qu'il a aidées au service des malades et des pauvres. D'ailleurs, on les appelait les sœurs Cornette. Moi, dans les années 50-60, j'ai vu des sœurs Cornette. Elles étaient habillées en bleu avec une belle coiffe, avec des cornes. Ah, donc, voilà, des
petits, d'où le nom.
Voilà, d'où le nom. Et elles étaient visibles dans la rue. Enfin, voilà, tout le monde les voyait. Elles étaient très dévouées auprès des malades et des pauvres. Voilà. D'ailleurs, il y a un film célèbre qui montre une sœur Cornette. C'est La Grande Vadrouille.
Ah ben oui, oui, c'est vrai.
Mon fils. Avec sa deux chevaux célèbres. Oui. Voilà. Alors, on revient à Jean-Gabriel Perboire. En 1638, donc, Saint-Vincent de Paul fonde l'œuvre des enfants trouvés. Et ça aussi, ça a marqué un peu les gens de mon âge, parce que dans notre enfance, on avait des images d'Épinal ou des vies de saints qui relataient la vie de Saint-Vincent. Et où on voyait Saint-Vincent de Paul tenant un enfant dans ses bras qu'il avait trouvé devant la porte de l'église. Il ouvrait le matin l'église et il trouvait des enfants laissés là par des mamans qui ne pouvaient pas les élever.
C'est vrai qu'à cette époque-là, l'église faisait office de services sociaux.
Ah oui, absolument. Absolument, il n'y avait rien d'autre. Hein. Alors, la mission fondée par Saint-Vincent de Paul en France ne s'est pas arrêtée en France. Les premiers lazaristes ont été envoyés donc en mission, puisque c'était leur mission, d'abord à Alger, puis à Madagascar et aussi en Pologne. Et ensuite, évidemment, ils sont partis bien plus loin. Mmh. Voilà.
Et Jean-Gabriel a été envoyé en Chine ensuite ?
Oui, il a été envoyé en Chine. Alors, un peu de patience, on va y arriver, car du chemin reste à faire à Jean-Gabriel, hein, avant qu'il ne parte en Chine. Hein, voilà. Donc, nous l'avons laissé en 1820, lors de la prononciation de ses vœux. Alors, les vœux, c'était pauvreté, chasteté, obéissance et stabilité. C'est-à-dire qu'ils devaient rester dans le monastère dans lequel ils avaient été, ils avaient prononcé les vœux. En 1823, il est nommé professeur. Professeur à Montdidier, près d'Amiens. Donc il part un peu loin quand même à l'époque, pour l'époque. Très apprécié par ses élèves, il crée des comités de classe, ça aussi c'était très nouveau, hein, pour aller tour à tour visiter les prisonniers et aider les pauvres. C'est en 1826 qu'il est ordonné prêtre. Il est alors nommé professeur de théologie à Saint-Flour. C'est plus près de chez nous. Puis au grand séminaire à Paris. Et enfin en 1831, directeur du petit séminaire Noviciat des Lazaristes, à Paris toujours. Alors je vais enfin répondre à votre question, Emmanuel. Ah. Si Jean-Gabriel est entré chez les Lazaristes, c'est parce qu'il n'a qu'un souhait. Partir évangéliser en Chine. Seulement, sa santé fragile s'oppose à ce projet. Il demande à ses élèves « Priez pour que ma santé se fortifie et que je puisse aller en Chine afin d'y prêcher Jésus-Christ et de mourir pour lui. » En 1830, son frère Louis s'était embarqué pour aller en Chine. Hélas, il perdit la vie en route dans un naufrage. Et cela ranime la volonté de Jean-Gabriel de partir comme lui. Que ne suis-je trouvé digne d'aller remplir la place qu'il laisse vacante ? Enfin, selon son souhait, Jean-Gabriel va s'embarquer au Havre le 24 mars 1835, donc il a quand même attendu un certain temps, et en compagnie de ses compagnons, il arrive à Macao 5 mois plus tard. La tâche est difficile. D'abord, il y a le problème de la langue, parce que pour entrer en Chine, il n'est pas en Chine à Macao. Hein.
C'est une île.
Donc, voilà. Donc, il faut qu'il rentre en Chine, donc il faut qu'il apprenne la langue, le mandarin. Il faut qu'il s'adapte au climat, parce qu'en Chine, il y a plusieurs climats, c'est tellement grand. Hein, voilà. Donc, il faut s'habituer à ce climat un peu chaud, un peu tropical au sud, et puis très froid au nord. Il y a aussi le problème des coutumes locales, qu'il faut apprendre pour les posséder vraiment, comme si c'était naturel. Parce qu'il faut savoir que les Européens à cette époque-là sont interdits en Chine. Donc il faut se fondre le mieux possible dans la population. Donc vraiment, il faut s'adapter. Au mois de décembre, il écrit, non sans humour, « Si vous pouviez me voir un peu maintenant, je vous offrirais un spectacle intéressant » avec mon accoutrement chinois, ma tête rasée, ma longue tresse et mes moustaches. On dit que je présente pas mal en chinois. C'est par là qu'il faut commencer pour se faire tout à tous. Puissions-nous ainsi les gagner à Jésus-Christ ? Il parle des Chinois, bien sûr. Pour y parvenir, il faut paraître chinois. Donc voilà, il va faire ce grand effort d'être comme un chinois. Voilà. Alors, son premier poste de mission se trouve au centre de la Chine, dans la province du Honan de l'époque, c'est l'actuel Henan. Le voyage est difficile. Jean-Gabriel est affaibli par la maladie qui va l'immobiliser 3 mois et qui faillit le vaincre. D'ailleurs, il faillit en mourir. Bon, il arrive à destination. Il visite une 20aine de communautés chrétiennes avec un prêtre chinois local, évidemment, et découvre l'extrême pauvreté des quelques 1500 chrétiens qui sont à l'époque en Chine. En 6 mois, il parcourt à pied 1500 kilomètres. Et on le dit, de santé fragile. En 1838, il va changer d'affectation et se retrouve dans une province voisine du sud, le Hubei, l'actuel Hubei. Voilà, je ne sais pas prononcer à la chinoise. Hein, donc,
bon, ça a l'air bien.
Je le prononce comme c'est écrit. Alors là, 2000 chrétiens sont dispersés, toujours en petites communautés, et l'église commune est une masure. Mais Jean-Gabriel remarque la ténacité de ces petites communautés. Ténacité d'un millier de pieux fidèles remplissant, même sous la pluie ou la neige, cette humble enceinte.
Mais voilà. Devant tant de pauvreté, Marie-Madeleine, il ne s'est jamais découragé.
Certainement, si, bien sûr, bien sûr. Malgré son dévouement et puis la santé n'améliorant rien, c'est sûr qu'il va vivre une période de doute. Voilà. Pourtant, le Seigneur va le secouer et lui dire « Que crains-tu ? Ne suis-je pas mort pour toi ? Mets tes doigts dans mon côté et cesse de craindre la damnation. » C'est pas souple, ça. Hein ? C'est très dur.
C'était réprimandé.
Mais Jean-Gabriel va se relever. Le 15 septembre, par contre, alors là, on arrive à la fin de sa vie, finalement. Le 15 septembre 1839, les missionnaires, parce qu'ils sont plusieurs, hein, il n'y a pas que Jean-Gabriel, il y a les compagnons avec qui il est arrivé en Chine. Les missionnaires apprennent qu'un groupe armé se dirige vers leur maison. Jean-Gabriel se réfugie dans la forêt, mais dénoncé par un de ses catéchumènes pour quelques taels, c'est-à-dire la monnaie locale, il est retrouvé et emmené pour un premier interrogatoire. Alors on ne va pas en vouloir à ce catéchumène, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? Toujours la même question, hein ? Voilà. Ce ne sera que le début d'un long martyr, car ballotté de ville en ville, interrogé de multiples fois et torturé plus souvent que supportable, il arrive à Uchangfu, où il reste prisonnier presque un an. Alors là, Jean-Gabriel va écrire « À Xiangyangfu, j'ai subi 4 interrogatoires, à l'un desquels je fus obligé de rester une demi-journée, les genoux sur des chaînes de fer et suspendu à une poutre de bambou. À Uchangfu, j'ai subi plus de 20 interrogatoires et j'ai reçu 110 coups de bambou parce que je n'avais pas voulu fouler aux pieds la croix. » Malgré les supplices, il reste inébranlable dans sa foi et fait l'admiration silencieuse de ses geôliers. Un catéchiste venu le visiter, il confie un message pour les chrétiens de la mission. « Dis-leur de ne pas craindre cette persécution, qu'ils aient confiance en Dieu. Moi, je ne les reverrai plus. Eux non plus ne me reverront pas, car certainement je serai condamné à mort. Mais je suis heureux de mourir pour le Christ. » Et le 15 juillet 1840, la sentence tombe. Il est condamné à mort par le tribunal de Wuhan. Il faut attendre la ratification impériale de la décision. Celle-ci arrive le 11 septembre 1840 et selon l'usage en Chine, l'exécution est immédiate. Jean-Gabriel est lié sur un gibet en forme de croix et étouffé lentement par strangulation. C'est un supplice chinois. C'est donc dans cette posture que Jean Gabriel est représenté le plus souvent dans les églises lotoises et ailleurs, habillé d'une robe rouge et une longue tresse dans le dos.
Alors son corps est resté en Chine, Marie-Madeleine ?
Alors dans un premier temps, oui. Un des catéchistes a soudoyé les gardes et a pu récupérer la dépouille de Jean Gabriel pour l'inhumer en terre chrétienne à côté de Saint-François Régis Clay, mort 20 ans auparavant, qui était un des premiers missionnaires en Chine. Puis, 20 ans après la mort du père Perboire, donc en 1860, le père Joseph Gabé, qui avait été un de ses premiers compagnons avec qui il était venu en Chine, et un autre lazariste, le père Évariste Huc, tous deux de passage à Wuhan, se débrouillent pour faire transférer le corps de Jean Gabriel à Paris, à la maison mère des lazaristes, 95 rue de Sèvres, où l'on peut voir son tombeau ainsi que sa statue. Cependant, sur place, les pierres tombales sont toujours vénérées à Wuhan. Et lors de la période maoïste, elles ont été cachées et protégées par les chrétiens locaux. Une petite anecdote, Imanol, pour nos auditeurs.
Ah oui.
La chasuble du père Perboire a été rapportée à Macao. Et en 1846, le père Évariste Huc, dont je viens de parler, va célébrer sa première messe à Lhasa, au Tibet, revêtu de la chasuble de Jean-Gabriel Perboire. Alors, dès 1843, le pape Grégoire XVI le déclare vénérable, c'est-à-dire qu'on peut le vénérer, on peut l'invoquer. Il est béatifié le 10 novembre 1889 par le pape Léon XIII et canonisé le 2 juin 1996 par le saint pape Jean-Paul II. Jean Gabriel est le premier martyr de Chine canonisé. Il est fêté le 11 septembre, puisque c'est le jour de sa mort. Autre remarque, Imanol, en 2020, c'est à Wuhan qu'éclate la pandémie de Covid-19.
Oui, tout à fait.
Eh oui. Étrange similitude entre la mort de Jean Gabriel, mort étranglé, étouffé, et cette maladie qui affecte les voies respiratoires. Remarquons aussi que Sainte Thérèse de Lisieux conservait une carte signée de Jean-Gabriel Perboire dans son livre de prières. Saint Jean-Paul II affirmait lors de la canonisation de Jean-Gabriel, sur les chemins où il a été envoyé, il a rencontré la croix du Christ. Dans l'imitation quotidienne du Seigneur, humblement et dans la douceur, il s'est entièrement identifié à lui. Après avoir été torturé et condamné, il a reproduit la passion de Jésus avec une étrange ressemblance jusqu'à arriver à mourir sur la croix. Alors avant de terminer, Imanol, on peut citer la prière que récitait Jean Gabriel.
Avec plaisir.
Seigneur, transforme-moi. Que mes mains soient tes mains, que mes yeux soient tes yeux, que ma langue soit ta langue, que mes sens et mon corps ne servent qu'à te glorifier. Mais surtout, transforme-moi. Que ma mémoire, mon intelligence, mon cœur soient ta mémoire, ton intelligence, ton cœur. Que mes actions et mes sentiments soient semblables à tes actions et à tes sentiments.
Amen. Amen.
Alors, Jean Gabriel apprenait à ses fidèles, dans le crucifix, l'évangile et l'eucharistie, nous trouvons tout ce que nous pouvons désirer. Il n'y a pas d'autre voie, d'autre vérité, d'autre vie. Alors, il existe aussi une prière à Saint Jean Gabriel Perboire. Alors, Saint Jean Gabriel Perboire, apôtre de la Chine, témoin de la foi, martyr de l'amour, communique-nous ton enthousiasme pour la mission, ta passion du royaume, ton goût du risque, la joie de servir. Obtiens-nous la fidélité à notre baptême, la constance dans la foi, le sens de la prière, l'amour de l'Évangile et de l'Église. Infuse en nos cœurs le sel de la sagesse, la ferveur des apôtres, la force de l'esprit et la folie de la croix. Amen. Alors, un petit dernier clin d'œil Que fait Jean-Gabriel à notre émission sur les arts sacrés ? Voilà ce qu'il disait. Si nous voulons parvenir à la gloire du ciel, il faut que nous devenions peintres. Plus nous peindrons en nous fidèlement l'humilité de Jésus-Christ, son obéissance, sa charité et ses autres vertus, plus nous assurerons notre salut et plus notre gloire sera grande dans le ciel. On ne peut pas mieux trouver quand même.
Devenons peintres.
Devenons peintres, voilà. Voilà, cette émission se termine. Chers auditeurs, vous avez entendu la vie exemplaire de Jean-Gabriel Perboire. Merci de votre écoute. Merci, Manol, pour ce petit échange.
Avec plaisir.
Et nous nous retrouverons bientôt pour évoquer un autre personnage du diocèse de Cahors. À très bientôt.
À bientôt.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.